Alors ce matin, on poursuit dans l'Évangile de Jean. Et la semaine dernière, on a vu ensemble que l'apôtre Pierre, pour saisir la grâce, pour comprendre vraiment la grâce de Jésus-Christ, devait faire une prise de conscience qui était beaucoup moins fort qu'il pensait. Il pensait qu'il était le plus fidèle, probablement le plus fidèle des disciples, que jamais lui ne renierait Christ. Et puis, à son grand désarroi, il était confronté avec le fait qu'il a renié Christ. Mais Jésus l'avait préparé, il l'avait annoncé. Jésus est en train comme de mettre la table pour lui enseigner une leçon. Pierre, t'es beaucoup moins fort que tu le penses. Et à travers le fait que Jésus savait ça, Jésus savait qu'il allait le renier, pourtant Jésus l'aimait. Et lorsque Jésus est ressuscité, il est allé vers Pierre puis il a dit, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Là, Pierre est confondu parce qu'il dit, « Écoute, je ne sais plus où est-ce que je suis. Je pense que je t'aime, mais tu vois, je t'ai renié. » Puis Jésus insiste, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? » Puis Pierre commence vraiment à être désarçonné. Puis Jésus lui dit, « Paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Maintenant que tu réalises à quel point tu es beaucoup moins fort que tu le pensais, maintenant que tu sais combien je t'aime, tu peux commencer à être utile pour prendre soin de mes brebis. » Il avait besoin lui-même de saisir cette grâce-là. Et donc, on voit Pierre qui vieillit bien, qui grandit bien, qui prend ces leçons-là, puis il va s'engager dans l'œuvre. Puis des fois, il faut vraiment se péter le nez pour apprendre ces leçons-là, puis voir la grâce de Dieu dans notre vie. À la fin de l'exposé la semaine dernière, je vous ai encouragé à oser demander à des gens autour de vous si vous vieillissez bien. Je ne sais pas si vous avez osé faire ça, demander à des gens dans la famille, un collègue de travail, des amis, « Est-ce que tu trouves que je vieillis bien? » Ça prend un petit peu de courage pour oser faire ça. Il faut comme être prêt à entendre la vérité, hein? Parce que ça se peut que quelqu'un nous dise, « Mais écoute, dans tel domaine, oui, mais je suis content que tu me poses la question parce que tu sais, j'aurais quelque chose à te partager. » Est-ce que vous avez eu le courage? Ce n'est pas facile de vouloir entendre la vérité. Et ce matin, c'est ça qu'on va aller voir ensemble. Être prêt à recevoir la vérité que Dieu veut nous donner, ce n'est pas tout le monde qui ose le faire. Et le Seigneur va nous inviter à ouvrir nos cœurs, à recevoir la vérité que Jésus-Christ veut nous apporter sur le royaume de Dieu. On va aller ensemble dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin. On vient pour entendre ta parole. Seigneur, nous sommes assemblés pour que tu nous parles. On ne s'est pas levé de notre lit ce matin pour venir entendre ta parole, Seigneur, sans intérêt. Mais on veut t'entendre. Et Seigneur, je veux confesser moi-même que souvent te suivre, marcher à ta suite, c'est accepter d'aller vers l'inconnu. Il y a quelque chose d'insécurisant dans ce royaume dans lequel tu m'invites à entrer, dans lequel tu m'invites à marcher à ta suite. Te suivre, Jésus, comme mon roi qui me conduit dans toute la vérité du royaume de Dieu peut être vraiment effrayant. Je te demande, Seigneur, de disposer nos cœurs, à s'examiner nous-mêmes et à s'engager à te suivre, à recevoir tout ce que tu veux nous révéler sur nous-mêmes, mais surtout sur ton Père céleste, sur ton royaume, Seigneur. Viens nous parler ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Bonjour. Alors, on poursuit la lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 18, le verset 28, jusqu'au chapitre 19, verset 16, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Jean 18, 28 à 19, 16. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi. » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie! Crucifie! » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu, Gabbata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie-le! » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent.
Merci, Esther. Avant d'être pasteur, il y a très longtemps, j'ai été éducateur spécialisé. J'ai fait mes études en éducation spécialisée, puis j'ai travaillé avec différents types de personnes, différents défis, tout ça. Mais pendant que j'étais en train de faire ma technique, j'ai eu l'opportunité d'accompagner un jeune homme qui avait le spectre de l'autisme, TSA, puis un grand colosse, si je me souviens bien, il s'appelait Hugo. Puis, disons que sa communication avec le monde autour de lui était très limitée. Et mon rôle à moi, c'était de donner un répit aux parents, juste de l'amener dans une activité. Et une activité qui était super utile pour lui, c'était d'aller à la piscine publique. Dans son cas, aller à la piscine, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire avoir des bruits échos incroyables dans une piscine. Ça voulait dire sentir l'eau qui définit les limites de ton corps. C'était utile pour lui juste de pouvoir prendre un contact plus réel avec son environnement. Moi, je savais ce que j'avais à faire. Je savais très bien ce que j'avais à faire. et je savais que je devais y aller doucement. C'était vraiment un colosse. Je voulais pas qu'il s'énerve, tu sais. J'aurais pas pu l'immobiliser. J'aurais été complètement mal pris. Et puis, tu t'en vas dans une piscine publique, il y a des enfants qui crient, les gens s'amusent. Puis toi, tu dois rentrer à l'intérieur de cet espace-là, puis le conduire pour aller dans l'eau. Puis une fois qu'il était rendu, tout allait bien. Mais pour lui, il y a plein d'éléments qu'il ne saisissait pas. Son interaction avec le monde autour de lui n'est pas le même que nous. Il n'y a pas les mêmes perceptions, il n'y a pas les mêmes lectures que nous. Il y a un élément qui est inquiétant, il y a un élément qui est inconnu. Moi, je savais où je m'en allais avec lui. Je savais ce que j'allais faire. Mais je devais, à quelque part, gagner sa confiance, puis tranquillement le conduire vers quelque chose d'insécurisant, d'inconnu. Il fallait qu'on ait cette relation-là. Bien, avec Dieu, on est souvent dans la position d'Hugo. Dieu sait très bien où il veut nous conduire. Christ sait très bien où il veut nous conduire. Lui comprend l'univers, il comprend la vie, il comprend ta destinée, il sait ce qui t'attend demain, il sait d'où viennent tes problèmes de santé, les difficultés dans tes relations. Il comprend tout ça parfaitement. Il sait où il doit te conduire. Mais toi, quelque part, il faut que tu t'abandonnes et que tu ailles vers l'inconnu. Il faut que tu acceptes de rentrer dans un univers que tu ne comprends pas et que tu te laisses guider dans cet univers-là. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à laisser Dieu les conduire dans cet autre univers-là, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à vraiment risquer d'entrer dans le royaume de Dieu puis laisser Jésus leur révéler des choses sur eux, sur leur cœur, sur le monde, sur la personne de Dieu, sur Jésus lui-même. Ce n'est pas tout le monde qui veut connaître la vérité que Jésus-Christ veut nous révéler. Et ce matin, dans le passage, on voit des gens qui peut-être ne veulent pas vraiment entendre la vérité que Jésus a apportée. Ils ne sont pas prêts à prendre ce risque-là. Pilate va dire avec ironie au verset 38, il va dire « Qu'est-ce que la vérité? » C'est une manière pour lui de dire « Bon, passons à un autre sujet, là, je pense qu'on ne s'entendra pas là-dessus. » Mais comme on va voir dans le passage, Pilate n'était pas insensible à Jésus. Je dirais même que Pilate était un homme superstitieux. Donc, ce n'est pas un homme qui était comme athée ou non-croyant, mais peut-être pas vraiment intéressé à connaître la vérité. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. Jésus est venu dans le monde pour faire connaître la vérité du royaume de Dieu. Ma question pour toi, c'est jusqu'à quel point désires-tu connaître la vérité que Dieu veut te révéler? Est-ce que tu es prêt à prendre le risque de connaître vraiment la vérité que Dieu veut te révéler sur son royaume? Et cette question-là est bonne si tu es en cheminement, tu t'intéresses au christianisme, mais cette question-là est valable si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu es chrétien. Parce qu'à tous les jours, je dois être prêt à suivre Jésus dans ce qu'il veut me faire connaître sur lui et dans ce qu'il veut me faire connaître sur moi, sur mon cœur, puis ce qu'il veut faire dans ma vie. Qui veut vraiment connaître la vérité? Pilate pose la question et dit, mais qu'est-ce que la vérité? C'est vraiment rhétorique, parce que dans le fond, il ne veut pas aller là, il ne veut pas répondre à cette question-là. Alors, on a quelques personnages ici qui, peut-être plus ou moins, veulent connaître la vérité. Il y a le superstitieux. Pilate, pour moi, c'est un homme superstitieux. Regardez ce qu'il dit au verset 4, Jean 19, verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, donc c'est un chef politique, c'est un chef militaire, il a énormément de pouvoir, il doit gouverner un État qui a été conquis, puis il doit comme négocier avec les autorités locales, les autorités religieuses qui ont beaucoup d'influence. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Les Juifs n'avaient pas la liberté, les autorités juives n'avaient pas la liberté de se débarrasser de Jésus comme ils auraient voulu. Ils devaient passer par les Romains. Et Pilate dit, mais il faut que je me prononce, je ne peux pas juste faire tuer quelqu'un comme ça si j'estime qu'il est innocent. Et donc, il prend le temps de rencontrer Jésus, il prend le temps de l'écouter, il prend le temps de le questionner, puis il dit, je ne trouve rien de mauvais en ce gars-là. Je ne vois pas pourquoi je devrais le condamner à mort. Je vais devoir rendre des comptes si je pose un jugement qui n'a pas de bon sens. Regardez les versets 7 et 8. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Fait que les Juifs disent, écoute, selon la loi romaine, c'est peut-être pas un problème jusqu'ici. On va voir comment ils vont jouer avec la vérité pour réussir à forcer la main un peu de Pilate. Mais ils disent, il s'est fait fils de Dieu, puis selon notre loi, c'est un blasphème. Il n'est pas fils de Dieu selon nous. Regardez ce qu'il nous est dit tout de suite après. Jean nous dit, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Donc, on n'est pas dans une situation où vous avez un chef politique qui est complètement indifférent, qui ne croit pas, qui serait athée ou qui dirait, non, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la foi des Juifs. Je ne crois pas là-dedans. Non. Quand il entend dire que cet homme-là, qui, en l'examinant, il dit, c'est un gars qui est bien, je ne comprends pas. Question contre lui. Puis là, il apprend en plus qu'il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Il devient effrayé. À quelque part, il se dit, je ne pense pas que je vais aller jouer sur ce terrain-là. Donc, c'est quelqu'un qui croit quelque part en Dieu. Il est au moins superstitieux. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sérieux dans une démarche où il voudrait connaître Dieu? Puis il dit, oh ouais, il s'est fait connaître. Il s'est présenté comme le Fils de Dieu. Écoutez, ça ne se passera pas aujourd'hui. Je vais le garder quelques mois. Je vais l'interroger. Je veux le connaître. Il y a peut-être un message. J'aimerais connaître Dieu. Est-ce que c'est ça qui se passe? Pas du tout. Finalement, cet homme-là, ses ambitions politiques l'emportent sur sa croyance. Il est ouvert à l'idée que Jésus n'est pas coupable. Il est même ouvert à l'idée que peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé, peut-être qu'il est fils de Dieu. Naturellement, il y a comme une inquiétude qui vient en lui. Ce n'est pas quelqu'un qui est indifférent à Dieu. Mais quand sa carrière politique est menacée, il va plier tout de suite, ses ambitions vont l'emporter. Pilate a beau dire, qu'est-ce que la vérité? Pilate n'est pas un homme qui cherche la vérité. Il aurait pu, il y avait vraiment une belle occasion, là. Écoute, Jésus est prisonnier, tu peux passer des heures à jaser avec lui. Oh, ouais, explique-moi ça. Et je ne sais pas si tu es quelqu'un de superstitieux. Tu crois en Dieu, Dieu est là. Puis j'ai même le goût de dire, à la limite, je vais te dire que tu sois chrétien ou non, tu peux avoir un comportement superstitieux. C'est une espèce de, Dieu est là, Dieu fait partie de ma réalité, mais Dieu n'a pas toute la place dans ma vie. Je suis intéressé à entendre parler des choses de Dieu, ça me donne des sentiments, des émotions, Dieu est présent, mais Dieu ne conduit pas ma vie. Je veux dire, la question que Pilate devait poser à Jésus, c'est « explique-moi ». Je veux dire, tu as vraiment de l'air parfait, tu as de l'air sans faute. Et quel est ton rapport avec Dieu? Est-ce que c'est « ben, je crois qu'il existe, des fois quand je pense à la réalité de Dieu, je peux être effrayé, je peux vivre des choses, mais je ne m'engagerai pas dans une quête sérieuse. » Mais j'ai le goût de te dire, tu peux vivre ça même en marchant dans l'Église. Tu viens à l'Église, Dieu fait partie, mais c'est comme un moment. Des fois, tu vis un sentiment religieux, tu vis quelque chose, tu as le comportement de quelqu'un qui est un peu superstitieux. Mais si Jésus te dit, « Je suis venu pour faire connaître la vérité sur le royaume de Dieu. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Est-ce que tu es dans une quête quotidienne que Dieu te fasse connaître la vérité de son royaume? Cette question-là est valable pour les chrétiens aussi, vous savez. Dieu est en train de vous parler dans des domaines de votre vie où il veut vous amener à marcher dans son royaume entièrement. Il y a des domaines où Dieu vous parle. Est-ce que vous fuyez? Ah, pour un autre jour, tu sais. Est-ce que vraiment c'est important? Qu'est-ce que la vérité? Pilate était un homme superstitieux qui ne cherchait pas vraiment à connaître la vérité. D'autres personnages qu'on voit, c'est les gens religieux. Les chefs religieux, écoutez, il n'y a pas pire que ça. Quand Pilate leur pose la question, versets 29 et 30. Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » C'est quoi leur réponse? S'il n'était pas malfaiteur, on ne te l'aurait pas livré. Mais ce n'est pas une réponse. Ces hommes-là, qui connaissaient la Bible, n'avaient aucun intérêt pour connaître la vérité. Ces hommes-là se servent de la religion, mais ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils savent très bien que Jésus n'est pas un malfaiteur. Ils sont usés ou obligés d'utiliser par toutes sortes de supercheries pour réussir à le faire condamner. Ils savent qu'il n'est pas un malfaiteur. Voyez-vous, il y a des gens extrêmement malhonnêtes, mais religieux, qui se servent de la religion simplement dans leur intérêt. Ils n'ont aucun intérêt personnel à connaître Dieu et ils sont dangereux. C'est vrai qu'il y en a. Il y en a qui le font au nom de toutes sortes de religions, et il y en a qui le font au nom du christianisme aussi. Ce ne sont pas des gens qui sont véritablement pieux, qui ont une crainte de Dieu, qui veulent connaître la vérité sur Dieu. Ces gens-là sont démasqués lorsqu'ils sont confrontés avec la parole de Dieu. Ces hommes-là n'avaient aucun intérêt à connaître Dieu. Et il se pourrait que tu sois une personne religieuse, peut-être pas dangereuse comme ces gens-là qui étaient en position d'autorité, qui vont se mettre à faire toutes sortes de jeux. Hein. Ils vont manipuler Pilate, ils vont le coincer en disant, « Écoute, je pense que selon ta loi, il peut y avoir un seul roi dans l'Empire, c'est l'empereur romain. Ben celui-là se dit roi des Juifs, fait que si tu le laisses aller, je pense que tu es un ennemi de César. » C'est juste des manipulateurs. Donc, peut-être que tu n'es pas dangereux comme ces personnes-là, mais peut-être que tu es une personne religieuse. La religion est quelque chose qui fait partie de ta vie. Tu as des pratiques, peut-être même que tu as plein de connaissances. Mais écoutez, Jésus était devant eux. Ils ont le Messie devant eux, puis tout ce qu'ils trouvent à faire avec, c'est le faire crucifier puis l'accuser d'être malfaiteur. Peut-être que tu es une personne très religieuse. Jésus apparaîtrait devant toi. Tu passeras à côté comme de rien. Peut-être que tu vas à l'église depuis des années, t'es né dans une église, dans une famille chrétienne, tu vas à l'église, puis tu suis la routine, tout le kit. Je veux dire, Jésus viendrait, t'apprêt sur l'épaule, tu dirais, « Hey, laisse-moi tranquille, je continue. » Parce qu'il n'y a pas une quête réelle de connaître Dieu. Ces gens-là étaient très religieux, n'avaient aucun intérêt pour connaître véritablement Dieu. Pensez-y, ils vont livrer le Messie qu'ils prétendent attendre depuis des siècles pour qu'il soit crucifié. Ils ne cherchaient pas la vérité. Puis je veux porter votre attention sur les disciples. Parce que Jésus va dire quelque chose au verset 37. Il dit, Pilate parle à Jésus, il lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et puis il va dire plus loin, il va dire, « Ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. » Donc il y a des gens qui suivent Jésus et qui ont entendu sa voix. Il y a même des gens comme l'apôtre Pierre qui ont fait une belle déclaration. Pierre, il n'a pas dit « tu es un malfaiteur », il a dit « tu es le Christ, c'est toi le Messie qu'on attendait ». Mais on vient de voir Pierre renier Jésus trois fois. Il cherche certainement la vérité dans laquelle Jésus veut le conduire, mais il y a peut-être une limite aussi, hein? Parce qu'il n'est pas dans la vérité, il est dans le mensonge, il ment sur la personne de Christ. Pourquoi est-ce que je souligne ça? C'est que Jésus dit qu'il se fait connaître à ceux qui sont de la vérité parce qu'ils entendent la vérité. Et on va voir que ceux qui deviennent chrétiens entendent la voix de Jésus d'une manière particulière. La bonne nouvelle de ce que Jésus fait lorsqu'il vient mourir sur la croix, l'Évangile, la bonne nouvelle, trouvent un sens dans leur cœur, dans leur âme, ça devient personnel. Mais ce n'est même pas parce que je suis un disciple de Christ que mon rapport à la vérité est toujours sain. Pierre renie Jésus trois fois après avoir dit qu'il était le Christ. Alors peut-être que tu as reconnu que Jésus est le Christ, c'est le Sauveur, mais est-ce qu'à tous les jours, tu es à cet endroit-là où tu veux qu'il te conduise plus loin, dans son royaume? C'est lui le roi, il veut former, on dit ici à l'Église, former le caractère de Christ en toi. Je dis, Pierre a encore des défis qui sont à venir. Pierre va devoir accepter une autre vérité lorsque Dieu va faire apparaître hein, une nappe avec des aliments purs et impurs. Puis il va dire, oui, il faut annoncer l'Évangile aux non-juifs aussi. Aïe, aïe, c'est toute une vérité qu'il bouleverse. Puis après ça, il va jouer avec la vérité. Hein? Lorsque l'apôtre Paul va le reprendre, puis en présence des non-juifs chrétiens, il mange avec eux. Puis là, lorsqu'il y a des judaïsants, c'est-à-dire des chrétiens, qui disent « Non, non, il faut que tous les non-juifs suivent toutes les règles du judaïsme. » Hop, là, tout d'un coup, il change de table, puis il s'en va ailleurs. Son rapport à la vérité reste pas toujours clair, Pierre. Mais je pense que Pierre est un bel exemple de ce qu'on est. On aime ça décrire Pierre comme l'espèce de « too much ». Maintenant, dans chacune de nos vies, je pense que notre rapport à la vérité est souvent discutable. Et donc, même les disciples qui ont compris que Jésus était le Christ ont besoin de faire un pas de foi pour suivre Jésus vraiment et reconnaître qu'il est le roi. Quel est ton rapport à cette vérité que Dieu nous révèle? Pour nous conduire à Christ, mais après ça, pour nous conduire dans la vie chrétienne. Celui qui cherche vraiment à connaître la vérité, Jésus va lui révéler. Et dans le passage de ce matin, Jésus va lui révéler qu'il est vraiment roi. Jésus est vraiment roi. Au verset 37, Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Maintenant, Jésus est un roi qui dépasse notre imagination. Jésus est un roi hors norme. Il est un roi qu'on ne pouvait pas le concevoir. Aux yeux des hommes, Jésus n'a rien d'un roi à ce moment précis. Il est méprisé, il est battu. Pilate dit, « j'ai trouvé rien de mauvais en lui, je vais le faire battre en attendant. » On se moque de lui. Je veux dire, dans l'histoire, on a vu des dizaines, voire des centaines de rois être déchus, perdre leur pouvoir et se retrouver dans une situation similaire à celle de Jésus. Lorsqu'un territoire est conquis, le roi va être assassiné, des fois il va être justement maltraité devant ses sujets pour montrer qu'il est vaincu, qu'il n'est plus un roi. Je veux dire, en apparence, comment est-ce qu'on peut deviner que Jésus est roi? Puis pourtant, Jésus est roi. Il est au contrôle de la situation. Tout est en train de se dérouler selon les desseins que son Père et lui ont conçus pour le salut des hommes. Il est inconcevable aux hommes que Jésus soit en train d'accomplir parfaitement les desseins de Dieu à ce moment-là. Pilate essaie même de prétendre que c'est lui qui est au contrôle de ce qui se passe avec Jésus. Regardez ce qui est écrit au verset 2 et 3, Jean 19. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, ils disaient, « Salut, roi des Juifs! » Ils sont en train de se moquer de lui, puis ils le frappent. Puis pourtant, ils ne savent pas, mais ils sont en train de dire une vérité. Ils sont en train de dire la vérité en l'appelant roi des Juifs. Il aurait pu l'appeler roi des rois, seigneur des seigneurs, ils auraient dit la vérité. Jésus est un roi tel qu'on ne pouvait pas l'imaginer. Au verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Jésus a été couronné. Il a été couronné d'une couronne d'épines. Et pourtant, il y avait beaucoup plus de vérité dans ça que ce qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Pilate se moque de Jésus et des Juifs en disant, au verset 7, « Nous avons une loi selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et Pilate va leur présenter en disant aux Juifs, « Voici votre roi. » Mais Jésus n'est pas un roi comme les autres. On vous a partagé un bouquin à lire, « Doux et humble de cœur hein? ». Ça vient de l'Évangile de Matthieu. Puis Jésus se présente en disant, « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il n'y a pas de rois sur la terre qui ont dit ça à leur sujet. « Vous êtes fatigués? Venez à moi. Je vais prendre soin de vous. Venez puis vivre dans mon royaume. C'est là qu'on trouve le vrai repos. » Jésus est un roi hors norme. Mais pour recevoir la vérité qui a me révélé sur le royaume de Dieu, je dois vraiment croire qu'il est roi. Je dois le croire pour devenir chrétien. Je dois accepter que dans sa crucifixion, c'est glorieux ce qui se passe. Je dois croire qu'à ce moment-là, il était en train d'accomplir le salut des hommes. Et si comme moi, tu es chrétien, au quotidien, je dois continuer à croire qu'il règne. Si vous regardez les circonstances de son arrestation, quelqu'un qui ne connaît pas la suite de l'histoire regarde ça et peut très bien dire, écoutez, ça n'a aucun bon sens, Jésus n'est pas au contrôle. Je veux dire, il va se faire crucifier, il n'est pas au contrôle. Mais l'évangile de Jean, les quatre évangiles, nous montrent très bien que Jésus est parfaitement au contrôle. Il va dire à Pilate, écoute, il n'y a rien qui se passe ici qui n'était pas prévu. Là. Est-ce que tu arrives à croire ça dans ton quotidien? Que ton roi est au contrôle? Est-ce que tu reçois cette vérité-là, que ton roi est au contrôle de ta vie? Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses. Je suis pareil comme toi, j'ai des choses super heureuses dans ma vie, puis j'en ai d'autres où c'est tellement lourd, tellement lourd, tellement lourd. Est-ce que tu crois que Jésus est roi, ou est-ce que comme Pilate, tu regardes aux circonstances et tu dis « je pense que le gars il a perdu le contrôle ». C'est peut-être le Fils de Dieu, mais ça va mal finir son histoire. Jésus est vraiment roi. Il règne vraiment aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à accueillir cette vérité-là? Est-ce que tu veux connaître la souveraineté de ton roi dans ta vie aujourd'hui, à travers les choses que toi, tu traverses en ce moment? Quand on pense à un royaume, à un roi ou à un gouvernant, on pense à des gens qui, dans le fond, tu sais, lorsqu'on pense aux gens qui gouvernent sur la terre, leur pouvoir est très limité. Hein? Ils ne vivront pas plus vieux que toi puis moi, ils vont mourir dans quelques années, leur pouvoir est limité. Ils essaient de mettre de l'ordre dans le pays qu'ils sont en train de gouverner ou peu importe, mais on voit bien que, dans le fond, c'est juste des êtres humains. Et à quelque part dans ce passage-là, Jésus apparaît comme quelqu'un qui est sans pouvoir. Et pourtant, Jean tient à souligner que Jésus est entièrement souverain. Des fois, le mot souverain, on a l'impression que c'est du vieux français, on ne comprend pas ce que ça veut dire, mais un souverain, c'est un roi. C'est quelqu'un qui règne. Dieu est absolument souverain. Il règne. Et Jean nous montre que le royaume de Christ est un royaume qui est plus grand que tous les royaumes du monde, où Jésus règne, il gouverne. Son Père et lui sont absolument souverains, plus que tous les souverains de la terre. Jésus était au contrôle de sa propre mort. La seule manière qu'un être humain peut avoir l'impression qu'il est au contrôle de sa propre mort, c'est en s'enlevant la vie. Jésus est parfaitement au contrôle de sa propre mort. Il contrôle les circonstances. Jean 18, 31, sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Puis au verset 32, on lit, « C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. » Voyez-vous, si les Juifs l'avaient mis à mort, ils l'auraient lapidé. Mais Jésus devait mourir d'une autre manière. Il devait mourir crucifié. Donc, les Juifs ne peuvent pas le mettre à mort. Eux, ils disent, on ne peut pas le mettre à mort parce qu'on est sous l'Empire romain. Mais en fait, ils ne peuvent pas le mettre à mort parce que Dieu a décidé que ce n'est pas comme ça que ça allait se passer. Il y a plein de circonstances dans nos vies où on dit, non, mais je ne peux pas faire ça, ça ne peut pas se passer comme ça. Si ça ne peut pas se passer comme ça, dans les faits, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu l'a voulu ainsi dans ma vie. Moi, je vois les obstacles humains, moi, je vois l'incapacité humaine. Mais si Dieu le permet ainsi et que moi, je suis disciple de Christ, si j'appartiens au royaume de Christ, si Jésus-Christ est mon roi, si ça ne peut pas se passer comme ça, c'est parce que Dieu ne l'a pas permis. Donc les Juifs sont là et ils disent, non, mais on ne peut pas le mettre à mort. Mais on doit le mettre à mort. Non, mais il ne doit pas être lapidé, il doit être crucifié parce que Dieu a décidé que c'était la crucifixion qui allait être la mort du Messie. C'est ce qu'il avait annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus est parfaitement au contrôle de sa propre mort. Jean 19, verset 10 et 11, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus lui répond, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi comme un plus grand péché. » C'est quelque chose, hein? Dieu a donné le pouvoir à Pilate de faire du mal à son fils. C'est ça que je comprends du texte. Il dit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si ce pouvoir-là ne t'avait été donné d'en haut. » Dieu a donné le pouvoir à Pilate de livrer Jésus pour être crucifié. Mais Jésus sait très bien que tout ça, c'est selon les desseins de Dieu. Si tu es chrétien comme moi, c'est ce Jésus-là qui est ton roi. et les circonstances de la vie qui te font souffrir, les gens qui te font souffrir, les défis que tu as personnels, les choses qui sont difficiles à vivre, rien ne se produit qui est à l'extérieur des desseins de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, de ceux qui ont été appelés à entendre la vérité. Ça, c'est mon roi. C'est mon Seigneur. Son royaume est plus grand que ce monde. Et son royaume est parmi nous, parce qu'il est venu parmi nous. Il dit au verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus répondit, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Puis en même temps, il est venu au milieu de nous. Regardez le verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Ce matin, je n'ai pas le temps de revenir sur ce qu'on a déjà vu dans Jean. Mais ceux qui viennent à Christ, ceux qui viennent à la foi, ceux qui entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile, ceux à qui ce message-là devient une mélodie, ont été donnés par le Père à Christ. Tu as un rôle à jouer. Moi, j'ai un rôle à jouer. Je dois répondre à l'appel. Mais premièrement, j'ai été donné à Christ par le Père. Et donc, c'est de ça qu'il est en train de parler ici. Ceux qui sont de la vérité entendent ma voix. Alors, je ne sais pas si tu n'es pas chrétien, mais tu as commencé à entendre sa voix. Tu as commencé à entendre l'appel de Jésus-Christ. Le christianisme, ce que Jésus est venu faire, l'idée que tu sois pécheur, que tu sois indigne à quelque part d'être en relation véritable avec Dieu, tout ça commence à prendre forme dans ton esprit, puis tu dis, il me semble que ça concorde avec mon expérience. Je ne suis pas si extraordinaire que je pensais. Je ne suis pas aussi fort que je pensais. Si j'avais me présenté devant Dieu, je ne suis pas sûr que je sors mon pedigree et tout se passe bien. Finalement, je suis peut-être un pécheur. Peut-être que ça fait du sens que Jésus soit venu mourir sur la croix pour mes péchés. Peut-être que j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. Si tout ça commence à prendre forme dans ton esprit, à quelque part, c'est la voix de Jésus que tu entends. C'est la voix de Jésus que tu entends. Et c'est en répondant à sa voix que tu vas l'embrasser par la foi. Tu vas dire, Jésus, tu es mon roi, tu es mon sauveur. Ta mort sur la croix n'est pas un accident. Tu étais parfaitement au contrôle. Et maintenant, je veux entrer dans ton royaume. Je veux que tu sois mon roi. Je veux te suivre. Si tu es chrétien, tu as appris, ou tu es en train d'apprendre à entendre la voix de Jésus. Littéralement, en lisant la parole de Dieu, en écoutant des messages, en voyant des circonstances dans ta vie. Quand je m'investis avec quelqu'un pour faire de la formation de disciple, pour le coacher, une des choses que je cherche à lui enseigner, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de te dire actuellement? Qu'est-ce que Jésus est en train de te montrer? Quand tu lis les Écritures, quand tu écoutes les gens autour de toi puis tu poses une question banale, hein? Est-ce que tu trouves que je vieillis bien? Sois bien attentif, parce que ça se peut que dans la réponse, ce soit Jésus qui soit en train de te parler, puis qui soit en train de te dire, « Regarde, on va aller travailler ça, tu as telle dépendance dans ta vie, je veux que tu l'abandonnes, je veux que tu me la donnes. Regarde, dans les relations, il faut que tu travailles là-dessus, tu ne me ressembles pas tout à fait. Fais-moi confiance, arrête de vivre dans la peur. » Quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui apprend à entendre la voix de Jésus. Et il a fallu que tu entendes sa voix pour devenir chrétien. Il a fallu que l'Évangile, la bonne nouvelle, prenne forme dans ton esprit, que ça saisisse ton cœur, tes tripes, ta foi. Puis là, tu te dis, OK, c'est bon, je mets tout ce que j'ai, je place toute ma foi en Jésus-Christ. Tu as entendu sa voix. Puis lorsqu'on grandit dans la foi, quand on avance dans la foi, on apprend à écouter la voix de Jésus qui nous parle, premièrement à travers sa parole. Et c'est pour ça qu'on expose les Écritures semaine après semaine, à l'espoir. Dieu te parle à travers les frères et sœurs, à travers l'Église, dans ta maison, mais dans l'Église, à travers les temps de louange, à travers des conversations. Dieu te parle à travers les circonstances de ta vie. L'Esprit Saint qui habite en toi te fait entendre la voix de Jésus. Puis ma question, c'est, est-ce que tu es prêt à le suivre ce matin? Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Je me souviens l'époque où je suis passé du secondaire au cégep, j'ai dit que je suis allé en éducation spécialisée. Puis on nous avait dit, ah, vous allez voir, c'est un petit peu effrayant. Tu arrives au cégep, tu es comme tout perdu, on te prend plus par la main, il faut que tu te trouves dans les locaux, tout ça. C'était intimidant. Pour de vrai, là, je suis passé de mon petit collège privé où on était, tout le monde prenait soin de nous, tout allait bien. Je suis allé au Vieux Montréal, le Vieux Montréal. Je me dis, aïe, aïe, c'est une place hein, de débauche. Ça avait toute une réputation à l'époque, je ne sais pas ce que ça a aujourd'hui. Super belle expérience que j'ai eue, mais j'étais vraiment perdu. Il fallait que je me rende à Montréal, je prenais le transport, tout ça. Je me sentais perdu. J'ai fait une technique, puis j'ai avancé dans la vie. Mais si tu veux marcher à la suite de Christ, apprends à être confortable, à te sentir perdu. Tu arrives devant des inconnus, dans des relations, dans des choix de carrière, dans des problèmes de santé, dans des situations familiales, dans ta vocation, tu dis « à quoi Dieu m'appelle? » Puis là, il y a quelque chose d'effrayant, c'est comme mon premier jour au cégep. Apprends à dire « Seigneur, je veux que tu me conduises dans ton royaume. Je veux connaître la vérité où tu veux me conduire aujourd'hui, ce que tu veux former en moi, parce que tu es mon roi. » Et tu es parfaitement au contrôle de toutes les circonstances de ma vie, comme tu étais au contrôle du jour où tu as été livré pour être crucifié pour mon salut. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Littéralement, tu es merveilleux. Tu n'es pas un roi de commune mesure. Tu n'es pas un roi qu'on peut comparer avec les rois de la terre. Tu es un roi qui, alors que tu as de l'air faible, tu es absolument puissant. Alors que tu es battu, tu es couronné d'épines, tu es glorieux, Seigneur. Dans cette situation-là, tu es absolument glorieux, tu es majestueux, tu es merveilleux, tu es beau, Seigneur. Alors que tu es couvert littéralement de sang, ta chair en lambeaux, tu es glorieux. Parce que ton royaume n'est pas de ce monde, Seigneur. Et Seigneur, tu m'as donné cette grâce d'entendre ta voix au jour de ma conversion, au jour où j'ai cru, j'ai dit, « Tu es mon roi. Je veux te suivre dans ton royaume. Conduis-moi. Je sais qu'il va y avoir des jours qui vont être effrayants. Mais je veux que tu me conduises dans toute la vérité, Seigneur. Que ce soit dans mon mariage avec mes enfants, dans ma santé, dans ma carrière, dans mes vocations, Seigneur. Que ce soit dans des relations complexes. Que ce soit sur ce que me réserve demain. Que ce soit pour faire face à des peurs, Seigneur. Je veux que tu me conduises dans toute ta vérité. Parce que tu es mon roi. Tu es mon roi et tu règnes en souverain, Seigneur. Et tu es un roi qui est doux et humble de cœur, Seigneur. J'ai appris à entendre ta voix. Amen.